explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
C'est un archipel battu par des vents glacés dans le nord de l'océan Atlantique. Un tout petit archipel, 242 km² de terre française, perdu dans les brumes. Son nom, Saint-Pierre-et-Miquelon, évoque pour nous l'ailleurs et le lointain. Mais il résonne plus fort encore pour certaines familles. Des générations de pêcheurs bretons ont embarqué pour ces îles et les eaux poissonneuses qui les bordaient. Jean Lebrun, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, est issu d'une famille de pêcheurs malouins. Son enfance a été bercée par les récits d'épopées maritimes au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Des récits qui ont attisé sa curiosité et nourri son imaginaire, à tel point que notre historien maison a fini par se rendre sur l'archipel. Il y a séjourné à plusieurs reprises, s'est passionné pour l'histoire de ces îles et de leurs habitants. Ses recherches l'ont conduit à s'intéresser à ce qui s'était déroulé dans ce petit bout de terre française pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un livre intitulé « Ici, Saint-Pierre-et-Miquelon » paru aux éditions Bleu Autour, il montre comment l'histoire de ce petit microcosme insulaire a rencontré la grande histoire en 1941. Cet après-midi, entre récits personnels et récits historiques, Jean Lebrun nous emmène bivouaquer dans les brumes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en fin d'émission, le passionné de cyclisme Claude Droussan nous conduira à vélo dans des coins de France qui valent le coup de pédale. Voilà pour le programme de cette émission préparée par Claire Tesser et réalisée par Marion Lelay avec à la technique Sofiane Aktib. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Ça, c'est le problème du climat de Saint-Pierre-et-Miquelon. On dit souvent qu'on a les quatre saisons dans la même journée, mais c'est quelquefois assez surprenant. Vous voyez d'ici le paysage qui s'offre à vous quand vous arrivez. C'est vrai que ça a une certaine aridité. Ça fait un peu Groenland sur les bords.
Et puis, il y a le petit village de Saint-Pierre qui est juste en face de nous avec toutes les lumières. Alors, ce qui est étonnant quand même à Saint-Pierre, c'est que village peut-être, mais c'est quand même une petite ville groupée à flanc de coteau, et il y a deux rues principales, une rue qui monte et puis une autre rue transversale.
Oui, c'est-à-dire que les gens à l'origine se sont groupés autour de l'abri naturel pour les bateaux. En fait, on en revient, dès qu'on est à terre ici, on revient à la mer.
Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Daniel.
Comme l'expliquait ce Saint-Pierrais interviewé en 1992 sur France Culture, les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sont toujours tournés vers la mer, ils y reviennent toujours.
Absolument, c'est leur ressource. Enfin, ils n'aiment pas beaucoup la pêche sur les bancs pendant trop longtemps, les bancs de Terre-Neuve, ouais, qui sont tout proches et où frayaient des dizaines de millions de morues. Ils préféraient la pêche côtière qui leur permettait de rentrer au bout d'une nuit, deux nuits, trois nuits, parfois un séjour sur ce qu'on appelait jusqu'au début du XXe siècle le French Shore sur la côte de Terre-Neuve. Ils rentraient à la maison. Et ils ont d'ailleurs le soin de leur maison. Les Saint-Pierrais, comme les Miquelonais, ont des intérieurs coquets, bien aménagés, vous savez, avec la fournaise, la chaudière au centre, des murs couverts souvent de clabord, de bois pour bien se protéger, un tourniquet à l'entrée de la maison pour éviter que les vents s'engouffrent, notamment le poudrin pendant les temps de neige. Il neige peut-être 90 jours par an et parfois la neige tombe horizontalement et alors elle pénètre tout. On boit debout, pénètre les vêtements, elle pénètre par les fenêtres. Ils ont le sens de le confort, ils ont le sens de l'aventure, modérément peut-être, et ils ont le sens de l'opportunité, c'est-à-dire que, comme disait Fernand Braudel, une île n'est jamais assurée de son devenir. Alors même dans les périodes où la pêche paraissait devoir durer, même pendant les périodes extraordinaires de la prohibition où les Saint-Pierrais profitaient de la prohibition aux États-Unis pour trafiquer, ils savent qu'il faut saisir toute occasion qui se présente. Et parmi les occasions qui se présentent, ben il y a le bonheur, la plaisanterie, la rigolade, la conversation là-bas, on disait plutôt que conversation, partie de blague. Alors vous décrivez évidemment un paysage difficile, des vents forts, le vent gouverne, le temps est incertain, le mot le plus souvent prononcé c'est « on va faire ça si le temps le permet », mais justement, chaque fois que le temps le permet et qu'il y a la possibilité d'un petit bonheur, ouais. Eh ben, on la saisit.
On le saisit.
On danse, on chante, on joue de l'accordéon, il y a dans les maisons traditionnelles, il y a des instruments de musique qui sont posés au mur, et même si les curés vous l'interdisent, eh ben, on fait des groupes de danse au cas où l'occasion ne se présenterait plus de nouveau.
Ouais. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve au nord de l'océan Atlantique. Si on jette un œil sur la carte, on voit ce petit archipel français au sud de l'immense île canadienne de Terre-Neuve.
Pourquoi ? Terre-Neuve, c'est à peu près aussi grand que la France, et puis Saint-Pierre-et-Miquelon. Comme le disait un gouverneur dans les années 30, montrant le planisphère aux enfants, c'est des chiures de mouches. Ouais, mais, ajoutait-il, si on voit le nom inscrit de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le planisphère, c'est parce que, et je réponds comme ça à votre question, Saint-Pierre-et-Miquelon est français.
Et vous, Jean Lebrun, vous avez entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon toute votre enfance?
Ben, si vous croyez que c'est important, même avant l'enfance, puisque je crois que je suis conçu le 15 août, vers le milieu du siècle précédent, dans le lit d'un capitaine de Terre-Neuve qui était le parrain de ma mère, lequel avait connu une forte ascension sociale. Ouais. Il était parti à pied, en sabot, depuis son village, entre Saint-Malo et Cancale, jusqu'au port de Saint-Malo, avec son baluchon sur l'épaule, et puis il avait fini par gagner ses galons de capitaine au long cours. Donc pendant toute mon enfance, j'ai entendu des récits d'ascension sociale grâce à Terre-Neuve. Ouais. Et j'ai aussi entendu des récits de drames, ouais. Des récits de naufrages. Si les femmes sont en noir dans les villages de la côte malouine, c'est souvent parce qu'elles ont perdu en mer leurs époux, leurs frères.
Les récits que vous entendiez ressemblaient peut-être à ceux de ce marin de Fécamp. On change un peu de coin, diffusé sur France Culture en 1991.
Sur le trois mâts où j'étais, il y avait 35 hommes d'équipage. Et on pouvait armer, pour la pêche à la morue, 11 doris. C'était des petites barques plates.
C'est-à-dire que, en fait, le bateau, le grand trois mâts,
oui.
Il était ancré dans un point de pêche, et les doris partaient comme ça. C'est-à-dire que vous partiez tout seul ?
Chaque navire, comme nous avions 11 doris armés en pêche. Par deux hommes. Et vous aviez des voiliers qui perdaient dans la campagne quelquefois un, quelquefois deux, quelquefois trois doris. Et le plus dur encore, c'était quand les doris n'étaient pas perdus complètement, quand ils étaient égarés dans la brume, quelquefois 4, 5, 6, 8, 15 jours, et qu'ils étaient récupérés complètement affamés, morts de froid et de... Parce que quand le doris se perdait dans la brume, eh ben, quelquefois, la brume se levait et il ne retrouvait plus son bateau.
Un marin de Fécamp au micro de France Culture en 1991. Saint-Pierre-et-Miquelon est un lieu de promesses. C'est aussi un lieu où se sont joués des drames, Jean Lebrun.
Oui, alors les drames de la mer, les drames du naufrage, on voit le long des côtes, notamment dans l'isthme qui relie la plus grande île, Miquelon, à une autre île, Langlade, encore émergent de l'océan, le haut des mâts,
ouais.
De bateaux naufragés. On voit au musée Archipélitude, à l'îlot marin, un îlot au large de Saint-Pierre, la carte des naufrages qui sont absolument innombrables. Ouais. Quand je vous parlais d'opportunités, les Iliens se saisissaient aussi des possibilités que provoquaient les naufrages. Non pas qu'ils les provoquaient, eux, les naufrages, mais dès qu'un était annoncé, bah, ils se portaient au secours des marins, mais aussi ils récupéraient tous les oui. Biens du bateau. Il y a au musée Archipélitude, il y a les restes d'un bateau allemand qui, je crois, a naufragé dans les années 1960. 60, et on voit tous les Doris qui sont décrits là, ouais. Et qui vont à l'assaut du bateau allemand. Il était plein de flippers, on l'a retrouvé comme ça, beaucoup de flippers dans l'archipel. Je vous voulais parler de drame, je parle de plaisanterie, parce que à Saint-Pierre-et-Miquelon, ben, on est toujours sur une face ou sur l'autre.
Alors cet archipel a hanté votre enfance, hein, Jean Lebrun, mais vous n'y avez pas mis les pieds tout de suite. Finalement, vous y êtes allé, on l'entend maintenant, vous connaissez très bien les lieux, vous y êtes allé relativement récemment, vous y êtes retourné, vous y avez séjourné. Quel souvenir vous gardez de cette arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon? Quelles sont les images, les sensations qui frappent?
Bah, les archipéliens diraient que je n'y connais rien, parce qu'il faut plus de 3 séjours, même si 2 ont eu lieu aux archives, pour commencer à connaître un peu les coulisses de l'archipel. Le premier souvenir, j'ai celui du vent. Hein. Ouais. On arrive à l'aéroport, la piste est extrêmement courte. Longtemps, les liaisons par avion ont été difficiles. Elles ont commencé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et elles ne sont devenues relativement sûres que depuis un ou deux lustres, depuis que l'aéroport a changé d'emplacement. Et tout de suite, on vous emmène dans un point exposé. Pour moi, c'était l'étang de Savoyard, au nord de Saint-Pierre. Et les vents gouvernaient, en effet, ce jour-là. On était battus par les vents, si le temps le permet. C'était un peu Belle-Île puissance 3 ou 4, si vous voulez. C'est donc ça. C'est le premier souvenir que j'ai, et qui est ensuite constamment présent. L'autre souvenir, évidemment, c'est celui de la brume. J'ai surtout séjourné là-bas au mois de juillet, qui est souvent le mois le plus brumeux, parce qu'on est au confluent du Gulf Stream qui transporte des eaux chaudes, et puis du courant du Labrador qui transporte des eaux froides, et on est dans un brouillard qui enveloppe en commun Terre-Neuve à 20, 30, 50 kilomètres, tout proche, avec leurs habitants, les Newfoundlanders et les Saint-Pierrais. Ils ont ce site commun, les Terre-Neuviens et les Saint-Pierrais, c'est le brouillard. Pour le reste, ils sont assez différents les uns des autres.
Alors votre intérêt pour Saint-Pierre-et-Miquelon vous a conduit, Jean Lebrun, à mener des recherches sur ce qui s'y était déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons voir que, durant cette période, l'archipel a fait l'objet de manœuvres stratégiques et de conflits qui révèlent les enjeux de la grande histoire. Vous allez nous raconter ça. Jean Lebrun nous emmène bivouaquer à Saint-Pierre-et-Miquelon cet après-midi sur France Inter. Vous connaissez bien Djoubaka, oui. Jean, notre programmateur musical. Il a choisi spécialement pour vous un chanteur Saint-Pierrais qui raconte son enfance sur l'île.
Je suis né outre-mer, dans un siècle à mes courses, les pieds dans mes hivers, l'océan à mes trousses. J'ignorais que la mer que je voyais paisible pouvait tuer mes frères, savait être irascible. Et les leçons d'histoire sur les bancs de l'école me montraient Bonaparte, je rêvais au pont d'Arcole. Je suis né à Saint-Pierre, mais je l'ai su plus tard, fallait savoir les guerres, Cléopâtre et César. Fallait savoir le monde, que la terre était ronde, les pleins et les déliés, fallait tenir sa langue. Les leçons d'orthographe sur les bancs de l'école nous apprenaient les baffes et les premières colles. Un jour, ce fut plus tard, j'étais loin de l'école. Quête folle ou hasard, j'entendis la parole d'un pêcheur inconnu qu'on ne décora pas, un forçat de la morue, un bagnard des trois mâts. Y'a pas que les généraux pour gagner les batailles. La graine des héros germe aussi dans la paille. Aujourd'hui ma guitare a du vent dans les cordes et raconte l'histoire de ce que l'on s'accorde. À regarder de loin, réflexe colonial, comme au temps des Malouins qui trimaient pour que dalle. aujourd'hui sur le tard, loin des bancs de l'école. Je rêve aux vieux briscards, aux généraux d'Éole. Hisse haut les couleurs et surtout n'aie pas peur. Hisse haut les couleurs.
Je suis né outre-mer et ce chanteur Saint-Pierrais, c'est Henri Lafitte. Vous l'avez reconnu, Jean Lebrun?
Henri Lafitte, c'est pas un chanteur, c'est le chanteur de Saint-Pierre. Non pas qu'il ait l'exclusivité de la chanson, c'est un directeur d'école, un enseignant dans l'âme. Il a formé beaucoup de chanteurs à Saint-Pierre. Non seulement il y a des livres, il y a une maison d'édition à Saint-Pierre, il y a un grand romancier qui s'appelle Eugène Nicole et beaucoup d'autres. Et il y a plein de chanteurs.
Moi, j'ai connu Saint-Pierre tout jeune. C'est là que je me suis fait déniaiser, d'ailleurs. Pour le marin de Terre-Neuve, Saint-Pierre, c'est la Tahiti du Nord. Les palmiers sont en zinc, d'accord, mais c'était l'escale de prédilection pour deux raisons. Trois raisons, même. On y parlait français. Les familles étaient très accueillantes. Je ne parle pas simplement pour le flirt. Et puis, il y avait toujours, pour les chalutiers qui étaient là, même en temps de carême, parce que le gouverneur, en général, était très croyant, en temps de carême, quand il y avait un chalutier, il autorisait un bal, il autorisait des trucs comme ça. Il fallait bien que Saint-Pierre vive. Or, c'était absolument remarquable.
Jean Récher, un ancien capitaine Terre-Neuve, interviewé sur France Culture en 2000, lui aussi, vous l'avez reconnu, Jean Lebrun, et vous m'avez dit « Ah, ça, c'est intéressant, quand vous avez entendu. »
C'est l'auteur du Grand Métier, qui est un classique dans la collection Terre Humaine, et il décrit bien une des caractéristiques de l'artisanat de marine auquel on avait recours quand on faisait escale à Saint-Pierre. Les escales à Saint-Pierre, c'était beaucoup mieux que les escales à Terre-Neuve, parce qu'il y avait des cafés dansants, toujours le thème de la musique, extrêmement accueillant. Alors à l'époque de la pêche traditionnelle, avec les doris, telles que vous l'avez décrite tout à l'heure, et encore plus dans les années 1950-1960, l'époque brève de la grande pêche industrielle, où viennent des gens de toutes les nations, depuis le Japon, le Venezuela, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, et évidemment la France. Une anecdote, il y a prescription. Jean Récher vient à un congrès à Saint-Pierre avec son épouse. Et son épouse lui dit « Je vais faire le tour de l'île ». Et elle rentre extrêmement souriante. Elle lui dit « Je n'ai vu personne qui te ressemble ». Ça veut dire qu'il a été déniaisé à Saint-Pierre, vient-il de dire. Ouais. Mais enfin, il n'a pas fait d'enfant à Saint-Pierre.
Ah oui, c'était son inquiétude.
C'était l'inquiétude de sa femme.
Mais ça a vraiment été ce lieu melting pot où le monde entier convergeait à une époque, Saint-Pierre et Miquelon.
Ben oui, parce que le commerce de la morue était mondial, donc on s'échangeait de la monnaie d'un peu partout. Enfin, vous aviez des doublons espagnols, des dollars américains et des francs français. Ouais. On parlait beaucoup de langues. Notamment l'anglais, bien sûr, que les Saint-Pierrais pratiquent depuis toujours et qu'ils sont très nombreux maintenant à pratiquer très bien, mais aussi bien l'espagnol, parce que parmi les marins les plus estimés qui venaient de loin, il y avait les Espagnols. Ouais. Dans les années 50-60, ils avaient une méthode tout à fait particulière, un petit peu bulldozer de pêcher. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils faisaient la cuisine sur le pont de leur bateau. Ils se sentaient la cuisine à l'huile d'olive dans tout Saint-Pierre. Puis ils devaient avoir une réputation de virilité, de force, de technicité, de talent qui les faisait apprécier, notamment des femmes de Saint-Pierre.
Alors on a beaucoup parlé de Saint-Pierre, mais Miquelon, qui est plus grande hein, et qui est aussi habitée, mais beaucoup moins peuplée, 10 fois moins d'habitants à Miquelon, aux alentours de 600 habitants. Il y en avait sensiblement le même nombre en 1964. Et en 1964, il y avait un seul gendarme pour tout Miquelon. L'émission 5 colonnes à la une était allée à sa rencontre.
C'est donc vous qui assurez le maintien de l'ordre à Miquelon?
Oui.
Ça pose des problèmes?
Non, ce sont vraiment des problèmes minimes, si l'on peut dire. Beaucoup d'arrangements, comme tout le monde est. Les Miquelonais sont plus ou moins parents, c'est une grande famille, si l'on peut dire, un petit village de 600 habitants. La délinquance n'existe quasi pas dans la commune.
C'est une grande famille, il y a moins d'étrangers en plus, quoi. Hein? à Saint-Pierre, on trouve davantage de mélange, quoi. Et même quand on est près de Saint-Pierre, eh bien, il arrive qu'on soit près de 3 semaines sans avoir ni bateau, ni avion.
Complètement coupé du monde extérieur.
Complètement coupé, c'est la seule communication possible, c'est la télégraphie sans fil, quoi. Ou le téléphone.
Étonnant, hein, Jean Lebrun, cette communauté de 600 personnes qui se coupent de l'île voisine. Ils sont déjà très isolés et ils s'isolent dans leur isolement.
Eh bien, ils sont à une heure. Ouais. Et puis, ils ont une histoire de peuplement particulière. Alors, le gouverneur, au début, au XVIIIe siècle, après 1763, a préféré un moment Miquelon. C'est d'ailleurs dans le cimetière de Miquelon qu'on trouve le plus ancien monument historique de l'archipel. Ouais. C'est le tombeau de la femme du gouverneur, la baronne de l'Espérance. Ensuite, les services sont allés à Saint-Pierre. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas les services, l'hôpital, la vraie gendarmerie, une partie de l'administration, Miquelon serait bien démuni.
Mais est-ce qu'il y a du coup une mentalité différente des Miquelonais par rapport aux Saint-Pierrais ?
Ben, il y a quelque chose de, comment dire, d'isolationniste, d'un peu sauvage, au sens positif du mot. Moi, l'image que j'ai gardée de Miquelon, je n'ai pas séjourné beaucoup, il y a juste une auberge où bien il faut loger chez des habitants amis, c'est celle de la jeune fille qui aide l'aubergiste de Miquelon et que nous avons vu chevaucher des chevaux à demi sauvages, sans selle et sans étrier. Mmh. Elle était là dans son état naturel, elle était heureuse, le paysage de Miquelon est grandiose. Et je me souviens que du haut de son cheval, elle a prononcé quelques oracles. Les Miquelonais sont particulièrement menacés par le dérèglement climatique, par la multiplication des tempêtes, et il n'est pas impossible que le village de Miquelon doive être abandonné. Et cette jeune fille aux longs cheveux, et qui parlait de manière prophétique, elle était en train de nous annoncer la fin de Miquelon,
ouais.
Qu'elle allait peut-être devoir vivre, et on sentait un immense regret et un défi à l'avenir, ouais. dans son regard. On n'aurait pas eu un personnage de ce genre, je pense à Saint-Pierre. Ouais. Il y a des chroniqueurs qui disent à Saint-Pierre, il y a plein de gens décorés qui ont regardé hisser le drapeau tricolore, comme dirait Henri Lafitte, qui ont la Légion d'honneur ou le mérite à la boutonnière. On n'a jamais vu un Miquelonais arborer une décoration sur son veston.
D'accord. Oui, il y a vraiment une différence de mentalité. C'est intéressant d'avoir ça en tête. On sent toute votre passion et toute votre connaissance des habitants de cet archipel, Jean Lebrun, et votre façon d'explorer les lieux, puisque l'histoire vous passionne, vous a conduit à vous demander ce qui s'était passé là, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le thème de votre dernier livre, Ici Saint-Pierre et Miquelon, aux éditions Bleu Autour. Pourquoi avoir voulu raconter la Seconde Guerre mondiale par ce, alors si je dis ce petit bout de la lorgnette, ça va sembler péjoratif, mais par cette petite tête d'épingle que sont ces îles de Saint-Pierre et Miquelon au nord de l'Atlantique.
Parce que si je voulais parler la guerre, je pouvais le faire plus facilement peut-être qu'un Saint-Pierrais et qu'un Miquelonais, parce que les traces sont encore très vives, les divisions toujours efficientes. Il y a eu un seul livre pratiquement de la part d'un francophone sur ce sujet, et écrit par une exilée, enfin par une Saint-Pierraise, ouais. Mais qui vit en métropole. Alors pourquoi ça m'a intéressé ? Parce que je voulais que les Saint-Pierrais comprennent qu'ils ne sont pas au bord de la route. Ils ont été au centre du monde, d'une certaine manière, dans le commerce de la morue. Ils l'ont été aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, grosso modo, les Français ont vu partir une partie de l'Empire qui s'est rallié à la France libre. C'était le désir du général de Gaulle que de rallier tous les territoires. Et il s'est intéressé dès le départ à Saint-Pierre et Miquelon. Simplement, à Saint-Pierre et Miquelon, le gouverneur, qui s'appelait Bourna, qui était plutôt un républicain ou un radical, pas du tout un homme extrémiste, a jugé qu'il était rationnel de rester sous l'égide de la frange de Vichy, comme les Antilles, qui étaient un proconsulat de l'amiral Robert. Il a freiné des quatre fers le désir qu'avait beaucoup de Saint-Pierrais de partir pour la France libre. Le général de Gaulle a entendu ce désir et il a, contre vents et marées, maintenu l'idée qu'il fallait aller rallier Saint-Pierre et Miquelon. Il a demandé à l'amiral Muselier, qui était le chef des forces nationales, des forces navales de la France libre, de partir à la tête d'une minuscule armada, trois corvettes et le grand sous-marin que la France libre avait, le Surcouf. Et à Noël 41, eh ben, ils ont rallié l'archipel à la cause de la Croix de Lorraine.
Ouais, alors ça, on va le raconter, mais il faut aussi préciser qu'à ce moment précis de l'histoire, ce mois de décembre 1941, se joue aussi la grande histoire avec les grands acteurs de l'histoire et des événements cruciaux, des tournants déterminants, puisque c'est début décembre 1941 que les Japonais attaquent Pearl Harbor.
Et que les Américains entrent dans la guerre où ils soutenaient déjà par la loi du pré-bail les Britanniques. Et alors, le général de Gaulle dit, bah oui, la carte change, les jeux sont redistribués, mais la France reste la France et Saint-Pierre et Miquelon doit rallier la France libre. Le président Roosevelt dit, mais c'est qui ce figurant là,
ah oui,
de Gaulle, qui vient nous embêter alors que la guerre devient mondiale, qu'elle gagne le Pacifique, que le premier ministre britannique Churchill vient me voir pour passer 15 jours en ma compagnie à la Maison Blanche et pour dégager les grands axes de demain. Qu'est-ce que c'est que ces rigolos qui mettent un caillou dans ma chaussure. Et un grand débat du coup a lieu entre les alliés sur qu'est-ce qu'il faut faire à Saint-Pierre et Miquelon. Il faut laisser le général de Gaulle avec ses Français libres. Et jusque et y compris dans la presse américaine, le secrétaire d'État américain dit c'est quoi ces soi-disant Français libres. Et la presse américaine qui le critique répond, mais enfin c'est tout de même pas des surfeurs. Ils ont des armes, ce sont nos alliés, même secondaires, sont les représentants de la démocratie française.
Ce qui va se jouer sur ce petit morceau de terre français est révélateur des jeux de pouvoir entre les alliés, et ça aura aussi des conséquences vraiment fâcheuses sur la relation entre De Gaulle et Roosevelt. C'est ce que vous allez continuer de nous raconter dans un instant, Jean Lebrun. Le temps d'un bivouac à Saint-Pierre et Miquelon prend un air de marche de l'histoire cet après-midi sur France Inter.
Keep me wrong from right, but I don't like when my bed.
Don't Fail Me Now. C'était Joy Crooks sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Juin 1940.
L'appel du général de Gaulle est entendu à Saint-Pierre-et-Miquelon. La population est prête à rallier les forces françaises libres.
Mais les hommes de Vichy veillent.
L'association des anciens combattants est dissoute. Les dirigeants du mouvement de la France libre sont arrêtés. Un groupement secret est constitué.
La Légion du général de Gaulle.
40 jeunes gens, réussissant à tromper toute surveillance, s'échappent au Canada, s'engagent dans les FFL.
Mais la domination de Saint-Pierre par Vichy constitue une menace pour les Alliés. Chaque jour, en effet, la station de radio émet des renseignements météorologiques.
Il faut agir!
Voici en 1945 comment on racontait ce qui s'était passé 4 ans plus tôt à Saint-Pierre-et-Miquelon. Notre invité Jean Lebrun relate avec plus de distance cet épisode dans son dernier livre « Ici Saint-Pierre-et-Miquelon » aux éditions Bleu Autour. Alors l'amiral Muselier va prendre possession de Saint-Pierre-et-Miquelon au nom de la France libre à Noël 1941. Ça va se passer très calmement. Là, on entendait le ton grandiloquent de cette archive, mais ça se passe avec une douceur extrême. Le gendarme en chef demande, le Raymond Zézette, c'est le nom de ce gendarme en chef, demande « Est-ce qu'il faut tirer ?» L'administrateur lui dit cette phrase « Nous ne sommes pas en Syrie, bien sûr qu'on ne tire pas ». Tout ça se passe dans une certaine douceur.
Quand la France libre arrive, elle a l'intelligence d'organiser un plébiscite. Et le plébiscite a lieu le jour de Noël. Il y a la messe de minuit et le plébiscite. Il faut penser que nous sommes dans une colonie où, en 1936, par mesure d'économie, on avait supprimé les conseils municipaux. Il n'y a pas de parlementaires, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de sénateurs, il n'y a plus de maires, il n'y a plus d'élections. Et Muselier, qui a un tempérament plus démocratique certainement que celui du général de Gaulle, organise ce plébiscite, et le plébiscite à Saint-Pierre est massivement favorable à la France libre. Il faut dire que la question était un peu biaisée. Est-ce que vous êtes partisan de la collaboration ou est-ce que vous êtes partisan du ralliement à la France libre ? Les choses apparemment sont en effet très calmes à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'adhésion est grande, notamment celle des jeunes. Mmh. Autre décision intelligente, le plébiscite est ouvert non pas seulement aux plus de 21 ans, mais aux jeunes hommes de 18 ans, histoire de permettre leur entrée dans les forces françaises libres. Le débat, en fait, il est entre les Alliés et le général de Gaulle. L'amiral Muselier est entre les deux. Le général de Gaulle dit, les géants, ils ont leur position, mais nous, nous sommes la France, nous sommes les représentants de la tradition française, et nous devons rester à Saint-Pierre-et-Miquelon, même si les Américains pensent que nous entrons dans leur pré-carré, dans leur continent. Juste un dialogue, début 42, entre Eden, le ministre des Affaires étrangères anglais, et le général de Gaulle. Eden lui dit, mais alors si les Américains débarquent, parce qu'ils ont menacé de débarquer pour reprendre...
On sent l'escalade verbale se tend entre Roosevelt et de Gaulle.
Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer, dit Eden au général de Gaulle? Eh ben, l'amiral Muselier invitera le chef de l'escadre américaine à déjeuner et tout se passera très bien. Oui, mais dit Eden, si, comme il menace de le faire, les Américains ne veulent pas discuter avec Muselier, veulent forcer l'entrée de la rade, eh bien, nous leur tirerons dessus, dit le général de Gaulle. Je sais pas très bien avec quoi, parce que nos trois malheureuses corvettes et le sous-marin Surcouf, c'était quand même peu de choses. Et le général de Gaulle ajoute, mais je sais que la cause des démocraties nous est commune et que du coup, le bon sens l'emportera. Et au total, le général de Gaulle, il va finir par emporter le morceau et Saint-Pierre-et-Miquelon sera administré par la France libre en dépit de ce que voulaient au départ les Américains.
Oui, c'est ça. Alors, il y a cette histoire grand format avec les grands acteurs du conflit. Et puis, il y a sur cette petite île, dans ce microcosme, aussi, alors, on a vraiment l'impression, en plus, vous le racontez avec un certain humour, mais il faut chaque personnalité locale. Il y a l'évêque, Monseigneur Poisson, il y a Gilbert de Bourna, l'administrateur, tous ces...
De Vichy,
qui
va être mis en résidence surveillée sur un bateau.
Tout ce monde se positionne, il y a des petits petite guerre intestine.
Il y a ce qu'on appelle les gros duquets, c'est-à-dire les commerçants qui sont habitués à diriger l'archipel. Il y a les petits pêcheurs artisanaux que la France libre décide de soutenir au nom de la démocratie. Il y a les partisans de l'école libre, les membres du clergé et les bonnes sœurs qui suivent Monseigneur Poisson, dont les Français libres disent « mais il faut le rendre à son élément », c'est-à-dire qu'il faut le rejeter à la mer. Et ça va être une guéguerre intestine, disons trois quarts de la population pour De Gaulle et un quart pour Vichy, pendant toute la période entre les deux gaullistes et les vichyards, parce qu'on a ce vocabulaire à Saint-Pierre et Miquelon.
Et alors, pour tenter d'administrer tout ça, au moins au début, il y a l'amiral Muselier, et puis à ses côtés, Alain Savary, qui est tout jeune et qui deviendra ministre de l'éducation de Mitterrand bien après, mais à l'époque, il a à peine plus de 20 ans, et il était revenu sur cet épisode de sa vie en 1986 sur France Inter dans l'Oreille en Coin.
Comment avez-vous pu assumer avec cette jeunesse des postes aussi importants? Ça doit être dur, on doit trembler devant les inférieurs, là, l'humour.
Non, mais à Saint-Pierre-Miquelon, on n'avait pas le temps de trembler. On avait tellement à faire. Il y avait la marine américaine qui a failli nous récupérer de force. Et nous, on était avec deux petits canons, 75 et 90. On aurait été braves jusqu'au bout, bien sûr. Enfin, mieux vaut qu'il n'y ait pas eu de boue. Et d'autre part, je prenais quelques précautions. Mon passeport, c'est moi qui avais mis ma date de naissance pour laisser un peu d'ambiguïté sur ce problème. Et puis, il y avait Muselier au démarrage, et Muselier était un homme assez extraordinaire, souhaitant séduire, et avant que l'évêque prenne position contre nous, il est venu nous rendre visite, et l'amiral a dit, écoutez, on va montrer que la France libre est très morale, quoi qu'on en dise, et on lui dit qu'on va fermer les maisons closes. Il lui dit, Monseigneur, nous allons fermer les maisons closes. Ah, dit Monseigneur Poisson, il n'y en a pas. Et Muselier, plein de zèle, lui dit, on va en ouvrir.
Nous étions en 1986 dans l'Oreille en Coin sur France Inter. Alors, cette anecdote d'Alain Savary est assez savoureuse.
C'est un personnage, vous savez, formidable. Ouais. C'est pour moi la découverte que j'ai faite dans la préparation de ce livre. Ses archives sont à Sciences Po. Son souvenir est un peu écrasé par la polémique sur l'école libre que vous évoquiez le temps où il était ministre de l'Éducation nationale de François Mitterrand, donc au début des années 1980. Et puis il a été battu auparavant, en 1971, pour la direction du Parti Socialiste par le même François Mitterrand. Mais alors, quel comportement pendant la guerre, tout à fait différent de celui de François Mitterrand. 17 juin 40, il rallie le général de Gaulle sans savoir que le général de Gaulle existe. Il devient, à 23 ans, dissimulant son âge, en mettant une cravate, costume sombre, administrateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, il raconte des souvenirs drôles, mais il lui fallait assumer la visite dans les familles quand les marins de la corvette le Mimosa ou le sous-marin le Surcouf étaient morts. Il fallait assurer la vie quotidienne dans cet archipel qui était dépourvu de ressources et dépendant du ravitaillement par le Canada et par les États-Unis. Il fallait trouver de l'argent. Et lui, il brûlait de repartir au combat parce qu'il avait 23-24 ans. Il est reparti. Début 43, il a fait une guerre extraordinaire, Alain Savary. Ces hommes qu'il admirait l'appelaient gouverneur, parce qu'il avait été gouverneur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a été compagnon de la libération. Il ne parlait jamais de ses exploits. Simplement, il avait toujours sur le chef, il est devenu chauve assez vite, une casquette de marin.
Et pendant toute cette période de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Pierre-et-Miquelon, le général de Gaulle n'a jamais mis les pieds, même s'il contrôlait la situation de l'homme, il n'a jamais mis les pieds sur l'archipel. Il s'y est rendu plus tard, en 1967.
Au nom de la France, de tout mon cœur, je salue Saint-Pierre-et-Miquelon. Des îles aussi françaises que possible. Le général de Gaulle doit vous dire que pendant la dernière guerre, Saint-Pierre et Miquelon a joué dans notre histoire, dans l'histoire de notre libération, et par conséquent dans mon esprit et dans mon cœur, un rôle magnifique. Il y a eu ici le symbole il y a eu aussi la preuve de l'indépendance française. Je vous ai dit mon émotion et je vous ai dit ma fierté d'avoir pu enfin mettre le pied dans ces îles. Vive Saint-Pierre et Miquelon. Vive la République. Vive la France.
Le général de Gaulle en 1967 à Saint-Pierre et Miquelon. Il va réellement considérer par la suite que ce qui s'est joué sur cet archipel était hautement symbolique, Jean Lebrun.
Il est venu en 1967, cet archive, moi ça me met les larmes aux yeux.
Oui, je vois.
Il est venu sur le Colbert pour ne pas fouler le sol étranger. Entre Brest et Saint-Pierre, et le grand historien de l'île qui s'appelle Marc Desribes, dit le discours sur le Québec libre, qui a eu lieu le lendemain, parce qu'ensuite il s'est rendu au Québec, il a rodé, il l'a préparé à Saint-Pierre et Miquelon, revigoré par l'accueil extraordinaire qu'il a reçu, parce que pendant la guerre, les Vichyards et les deux gaullistes se disputaient. Finalement, tout le monde a dû partir au combat. Une mobilisation générale a eu lieu début 1944. Un amalgame a fini par se produire, une unité. Et ils étaient tous derrière le général de Gaulle en 1967, quand il visitait cet archipel qui, pour lui, a un rôle plus que symbolique. Un des plus beaux monuments aux morts que je connaisse, c'est celui de l'île aux marins, au large de Saint-Pierre et Miquelon. Il est très difficile à entretenir parce qu'on n'arrive pas si aisément à toutes les saisons à l'île aux marins. Il associe la croix et le drapeau. Et pour moi, c'est vrai que cet endroit-là, c'est un des plus beaux endroits de France.
Aujourd'hui, en quelques secondes, Jean Lebrun...
Ils ont le choix aujourd'hui entre Observatoire de la biodiversité, Laboratoire de l'Anthropocène, ou alors, toujours le sens de l'opportunité, ils peuvent se dire, mais alors, si le passage du Nord-Ouest est rouvert, on pourrait peut-être redevenir un hub, on pourrait redevenir une plateforme logistique pour tous les commerces ou tous les trafics qui auront lieu grâce au passage du Nord-Ouest. Alors ces deux imaginaires là qui sont en train de se confronter, l'imaginaire de la pêche existant encore, parce qu'on continue de pratiquer la pêche en dépit de tout à Saint-Pierre et Miquelon.
Merci Jean Lebrun. Je rappelle le titre de votre livre, Ici Saint-Pierre et Miquelon, aux éditions Bleu Autour. Restez avec nous, dans un instant, on part pour un périple à vélo dans les plus beaux endroits de France avec un passionné de cyclisme, Claude Droussan.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Oh,
dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.
C'était les séquoias chantés par Pomme dans Le Temps d'un bivouac.
Le Temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Le choix du vélo, c'est vraiment pour prendre le temps de bien pouvoir tout observer. Et là, l'idée, c'est qu'au fil des kilomètres, on en prend plein les yeux, chacun à notre rythme. Cédric est parti devant, il avait envie de filer. Moi, je prends le temps un petit peu derrière. Je m'arrête prendre des photos, je regarde. Et puis, très honnêtement, avec le Mistral qui est aujourd'hui, ça récompense les efforts. Mais quand on arrive là, on se sent encore plus vivant.
Et nous allons à notre tour nous élancer sur les sentiers de France à vélo. Bonjour Claude Droussan.
Bonjour.
Cycliste passionné, vous avez longtemps été journaliste de sport au sein du groupe L'Équipe et vous venez de publier Les plus beaux endroits pour pédaler en France aux éditions Grunt. Vous y présentez une centaine de lieux à parcourir à vélo. Ça va des villes aménagées pour les cyclistes aux vallées les plus reculées, les bords de mer, les rives de fleuves, les montagnes, les gorges. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Alors on va profiter de vos conseils. D'abord, pour notre invité Jean Lebrun, qui est toujours avec nous, quelques idées de chemin à faire en vélo en Bretagne.
Alors les idées, sans doute, Jean Lebrun, je suis certain, connaît beaucoup mieux la Bretagne que moi, même si je la connais assez bien. Mon coup de cœur en Bretagne perso, c'est assez éloigné de chez Jean Lebrun. Ce sont les Monts d'Arrée dans le Nord Finistère, parce que c'est un paysage à nul autre pareil, une atmosphère mi-celtique, mi-mystique. Ça ressemble à l'Irlande, ça ressemble au Pays de Galles. C'est 400 mètres au-dessus de l'océan. Et il vaut mieux prendre un VTT, c'est un petit peu sportif parce qu'il y a quelques grimpés. Ouais. On se retrouve à des endroits incroyables sur des pitons rocheux qu'on ne peut pas imaginer à ces endroits-là. Mais il y a tellement de beaux endroits en Bretagne comme en France, c'était difficile de choisir quand même.
Et alors, Jean Lebrun, les Monts d'Arrée à VTT, vous signez ?
C'est un peu le même paysage qu'à Saint-Pierre, des rochers, des arbres bas qui sont courbés par le vent, et des tourbières, des zones spongieuses. Ouais. Et il y en a dans les Monts d'Arrée, puisque l'enfer selon les Celtes, c'était les marais.
Très bien. Vous faites du vélo, Jean Lebrun ?
J'ai beaucoup regardé les coureurs cyclistes faire des critériums après le Tour de France le dimanche en Bretagne.
Vous préférez regarder. Alors, ce qui frappe en parcourant votre livre, Claude Droussan, c'est le dépaysement que peuvent offrir nos régions. On peut rester en France et avoir l'impression d'aller très loin. Vous disiez finalement dans ces Monts d'Arrée, on a une impression d'Irlande, mais ces impressions de paysages lointains, on les retrouve à bien des endroits en France.
Oui, tout à fait. On peut par exemple comparer les gorges du Daluy et du Sien ou les ocres du Luberon à certains paysages du Colorado. Gorges du Daluy et du Sien, c'est dans les Alpes-Maritimes, une heure au-dessus de au nord de Nice. Le plateau de Millevaches s'apparente à certains paysages canadiens. Il y a un endroit merveilleux dans l'est de la France, en Haute-Saône, à la limite, à la lisière des Vosges, qui s'appelle le plateau des Mille Étangs. Ouais. Et ça mérite vraiment le détour.
Dans votre ouvrage, Claude Droussan, il y en a pour tous les niveaux. Certains des parcours que vous proposez sont accessibles aux familles.
Absolument, oui. Et je recommande notamment pour les familles, si c'est un premier voyage à vélo. Moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui ont décidé de partir avec les enfants cet été, de se tester au voyage en famille à vélo. Là, je recommande les destinations fluviales. Ouais. Ça présente deux avantages. Parce qu'il y a déjà, parce que les fleuves, il y a beaucoup de fleuves qui sont bien équipés en voies vertes cyclables et très bien balisées, avec beaucoup de structures d'accueil autour. On peut même louer des vélos à un endroit, les rendre 80 km plus loin et le loueur s'occupe de tout ça. Et les deux avantages du fluvial, c'est que les enfants ne vont pas être confrontés à des reliefs, parce que ça, alors c'est vraiment repoussoir pour les enfants, c'est de devoir monter des côtes, parce qu'ils vont très vite vous dire que vous leur faites monter des cols du Tour de France, alors qu'il ne s'agit pas du tout de ça. Donc il faut les amener progressivement, surtout pas les écœurer. Et puis le deuxième avantage du fluvial, c'est que très souvent, à côté des pistes de vélo, il y a d'autres activités, du canoë, de l'escalade. Et si on part avec des enfants, faut avoir en tête ne pas faire plus de 3 heures de vélo par jour et puis consacrer l'autre demi-journée à d'autres activités.
Alors, il y a quelques incontournables dans votre livre, comme les gorges du Verdon ou de l'Ardèche, et puis aussi quelques endroits moins connus, moins fréquentés. Ça peut être utile de les avoir en tête pour ceux qui se décident à la dernière minute pour leurs vacances, notamment des gorges moins connues que les deux que je viens de citer.
Oui, les gorges, c'est une ressource géographique française incroyable, parce qu'on a l'impression que les canyons, ça n'existe que de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas du tout. Moi, je suis très très fan, par exemple, des gorges de la Loire. Alors, c'est une partie de la Loire qu'on connaît très très mal, parce que ouais. La Loire, on connaît ces espèces de fleuves très larges à Langui, bordés de châteaux en Touraine, ou même un petit peu avant, mais... La Loire, donc, chacun sait, prend sa source au mont Gerbier du Jonc. C'est situé entre Le Puy et Saint-Étienne, dans le Massif central. Et puis, très, très vite, à partir d'Aurec-sur-Loire et jusqu'à Roanne, à peu près, il y a un secteur qui s'appelle les Gorges de la Loire, où le fleuve, qui est déjà quand même assez conséquent, assez imposant, fait son chemin dans un paysage de moyenne montagne. Il y a des promontoires incroyables, des villages perchés. C'est sublime, quoi.
Et puis dans les endroits, je crois, récents que vous avez découverts, il y a, parce que vraiment vous allez dans toutes les régions de France, il y a le nord, dans le nord, le long de la côte.
Oui, on ne s'attend pas à avoir des destinations cyclistes bénies dans les Hauts-de-France. Alors là, il y a vraiment un endroit merveilleux, c'est la côte qui va grosso modo de Calais à la côte d'Opale au Touquet, où là on est confronté sur une côte qui a d'ailleurs été baptisée la côte d'Opale par les couleurs qu'elle a magnifiées et l'inspiration qu'elle a su donner au 19e et au début du 20e siècle à de grands peintres. Et là, il y a des endroits merveilleux et des endroits inattendus comme le Cap Blanc-Nez, le Cap Griné, qui sont des promontoires, des falaises au-dessus de la Manche. Et quand il fait grand beau, parce qu'on est au plus près de l'Angleterre, on voit bien entendu les côtes anglaises. Et par ces temps de Brexit, c'est un vrai pied de nez, c'est très bien.
Et oui, c'est ça. Et pour ceux qui, inspirés par le Tour de France, voudraient se lancer en montagne, quel conseil vous donnez? Parce que vous disiez tout à l'heure, les enfants peuvent être un petit peu réfractaires aux côtes, mais les adultes aussi, à dire vrai.
Non, il y a une solution évidente aujourd'hui et il faut surtout pas avoir peur d'y recourir parce qu'il y a aucune honte à ça. On ne triche pas, on doit pédaler aussi. C'est tout simplement le vélo à assistance électrique et ça permet à tout un chacun, quelle que soit sa condition physique, de à la fois de gravir des pentes, d'aller voir des endroits magnifiques en hauteur où on serait pas allé, et puis surtout tout le long du trajet de faire du sport comme on veut parce que les niveaux d'assistance on les règle comme on veut.
Alors le vélo à assistance électrique, c'est pas tricher. Dans ces conditions, Jean Lebrun, vous pouvez vous y mettre.
Mais bien sûr, là je ne compromets pas cet effort.
Très bien, merci à vous Claude Droussan, on se sent plus préparé. Il y a aussi quelques conseils de sécurité, le casque bien sûr qui n'est pas obligatoire mais qui est indispensable, et puis vous conseillez même de rouler avec les lumières allumées en plein jour. Voilà pour les quelques conseils pour que tout se passe bien. Un grand merci à vous Claude Droussan pour vos conseils.
Merci.
Je rappelle le titre de votre livre avec une centaine d'idées de lieux à parcourir à vélo, les plus beaux endroits pour pédaler en France. Aux éditions Grunt, le temps d'un bivouac replie sa tente pour réécouter cette émission en podcast et les précédents épisodes. Il y a l'application France Inter ou celle de Radio France. Et puis pour nous laisser un message, il y a bien sûr la page Facebook du temps d'un bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. Demain, pour le premier bivouac cosmique de l'été, nous irons faire un tour sur la planète Mars. À demain donc pour de nouvelles aventures.